Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
Bonsoir, bienvenue dans Europe Soir, info, interview, débat, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et il est 18h. Et au sommaire de vos deux heures d'information, la Finlande annonce officiellement sa volonté d'adhérer à l'OTAN avec les conséquences qu'elle sait vis-à-vis de la Russie. 1340 km de frontière séparent les Finlandais des Russes, mais cette séparation est beaucoup plus profonde quand on sait le cauchemar que la Russie a fait vivre à ses voisins pendant près d'un siècle. Dag Sebastian Nylander, ancien ambassadeur de Suède, grand connaisseur de la Finlande ainsi que de la Russie et des pays baltes, nous en dira plus dans un petit instant. Emmanuel Macron en déplacement à Abu Dhabi, à peine le quinquennat commencé, le chef de l'État s'assure de la pérennité des relations avec les Émirats, pays stratégique pour la France. Le président ne privilégie-t-il pas l'international dans une France pessimiste, obnubilé par le pouvoir d'achat? L'expert en communication politique Florian Silnicki nous répondra. Charles de Foucault, tour à tour soldat, puis dandy fêtard, puis cet ascète devenu prêtre assassiné à 58 ans. Sa canonisation a eu lieu aujourd'hui à Rome. Pourquoi lui? Quel symbole? Pourquoi est-ce important? L'évêque de Nanterre, Mathieu Rouget, nous attend en direct place Saint-Pierre à 19h15 pour tout nous expliquer. Le burkini vote demain en conseil municipal de Grenoble sur l'autorisation ou non de ce vêtement dans les piscines publiques. Éric Piolle le veut, l'opposition dit non, et les grenoblois dans tout ça. Et puis la MotoGP, pas de podium pour Quartararo. Axel May nous racontera à 18h15 l'invité politique, Philippe Ballard, porte-parole du RN, à un mois des législatives où est passée Marine Le Pen. 18h30, les débats politiques, ça se discute, Frédéric Dabi de l'IFOP contre William T du think tank Le Millénaire. 19h30, nouveau rendez-vous, Europe Panorama, quand les Français ont changé leurs habitudes de partir en vacances. La tendance météo, Valérie Darmon.
6 départements de la Manche à la Normandie, toujours en vigilance orange orage, et ce jusqu'à 22h. Actuellement, les cellules les plus orageuses concernent la région de Rennes et du Mans.
Merci Valérie Darmon, météo complète en fin de journal.
Europe 1.
Et avec ce premier grand sujet d'actualité, bien sûr, la Finlande qui franchit le pas et qui s'affranchit d'un poids historique. La neutralité militaire, visant surtout à ne pas fâcher ses voisins russes avec lesquels elle partage 1340 km de frontières. La Finlande demande donc officiellement son entrée dans l'OTAN. A priori, tous les pays membres sont pour, sauf la Turquie, qui pour l'instant ne se prononce pas, mais on sait que c'est une alliée de Vladimir Poutine. Cette Finlande, dans l'Europe, dans l'Union européenne, a pris une décision dans l'urgence, voyant ce qui pouvait se passer avec la guerre en Ukraine. Mais cette histoire-là n'est pas la seule. Et c'est un ancien ambassadeur de Suède qui va nous la raconter. Dag Sebastian Nylander, bonsoir, monsieur l'ambassadeur.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct de Suède. Je précise que vous êtes aussi d'origine finlandaise par votre famille, que vous connaissez ce pays très bien, ainsi que la Russie. Peu de gens le savent, mais la Finlande et la Russie, c'est une cohabitation très ancienne et souvent houleuse.
Oui, c'est vrai. Vous savez, la Finlande faisait partie de la Suède pendant 600 années. Donc, c'était une minorité finlandaise qui parle encore suédois, y compris le Marshal Mannerheim, qui a sauvé le Finlande 3 fois contre les attaques soviétiques après la Première Guerre mondiale. Et nous, les Suédois, nous avons toujours historiquement mener maintes guerres contre la Russie. Mais quand Napoléon s'est allié avec la Russie, nous avons perdu la Finlande en 1809.
Et donc
Donc la Finlande faisait partie de la Russie comme une grande duché pendant 100 ans, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale,
oui.
quand le pays est devenu indépendant. La Suède s'est retirée donc des affaires européennes. Vous savez que c'est votre compatriote, le maréchal Bernadotte, qui est devenu roi de Suède. Et comme parvenu, il s'est décidé à la neutralité. Il ne voulait pas se mélanger avec les vieux royautés de l'Europe.
Et donc c'est un moment où la Finlande, si je comprends bien, est devenue indépendante de la Suède, que les ennuis ont commencé avec la Russie.
Oui, c'est ça. Je pense que la Russie considérait la Finlande comme partie de la Russie, mais les Finlandais eux-mêmes se considéraient comme un grand duché séparé avec leur langue, leur constitution suédoise. Donc, il a eu un fort sentiment d'une liberté.
Et donc,
aussi avant l'indépendance.
Et donc Staline, à un moment donné, finit par attaquer la Finlande.
Oui, en 1939.
Ouais.
Staline a attaqué la Finlande dans une guerre qui ressemble beaucoup à la guerre actuelle d'Ukraine. Staline a voulu ressemble tous les pays qui la Russie impériale a perdu pendant la Première Guerre mondiale. Il a voulu gagner la Finlande pour la faire une partie de l'Union soviétique. Mm-hmm. Mais les Finlandais, sous le maréchal Mannerheim, se défendaient bien. Mais à la fin, ils ne pouvaient pas gagner. Mais ils sauvegarder leur indépendance et sa indépendance et sa démocratie. Et c'était la chose importante pour eux.
Mais alors justement, comment est-ce qu'ils sont parvenus à contrer la Russie, l'URSS, en gardant leur indépendance? Parce que c'était facile pour les Russes d'annexer la Finlande.
Non, c'était la même chose comme en Ukraine aujourd'hui. Mmh. Les Russes sont allés en grande colonne avec leurs panzers, leurs voitures. Et les Finlandais sont des bons skieurs qui entouraient les véhicules militaires soviétiques et qui ont tué maintes soldats bolcheviques. Et pendant presque 2 mois, ils ont presque gagné la guerre. Mais ensuite, Staline a jeté encore 1 million de soldats envers la Finlande et c'était donc impossible pour eux.
Donc vous voyez, c'est quand même très très intéressant pour nous, Français, de découvrir cette histoire passée entre la Finlande et la Russie qui ne prend pas racine aujourd'hui, mais bien dans le passé et dans les 100 dernières années. Cette démarche aujourd'hui, Monsieur l'ambassadeur, elle était nécessaire, elle était cruciale, elle était fondamentale avec ce qui se passe en Ukraine. Les Finlandais ont pris peur, ils se sont dit « oulala, c'est exactement ce qu'on a vécu dans le passé qui peut se reproduire ?»
Absolument, j'y pense. Pour nous, c'est intéressant, c'est bouleversant même, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, la Suède a toujours pris en considération spéciale la situation de la Finlande. Et tout d'un coup, maintenant, le Finlande, c'est l'inverse, le Finlande qui mène le bâton de mesure. Mm. Donc, c'est comme si le frère cadet a guidé le frère aîné. Pour nous, les Suédois, c'est très bouleversant. Mais personnellement, j'y suis contente.
En tout cas, cette décision des Finlandais, elle prend place aujourd'hui. La Finlande qui, officiellement, fait part de sa volonté d'adhérer à l'OTAN. Les Russes, vous qui les connaissez, vous qui avez été en poste en Russie, à Leningrad, devenu Saint-Pétersbourg, comment est-ce qu'ils peuvent réagir ?
Les Russes, je ne sais pas, j'espère qu'ils sont occupés en Ukraine. J'espère qu'ils n'ont pas des ressources supplémentaires pour nous attaquer ou pour nous gêner, mais on ne sait pas. Mais comme une fois en OTAN, je pense que notre situation devrait être différente et beaucoup plus sûre.
Merci beaucoup, merci Excellence, Monsieur Dag Sébastien Allender, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1 de Suède. Je signale justement, puisqu'on en a parlé dans notre entretien, que vous publiez une biographie de Carl Gustav Mannerheim, ce maréchal de Finlande qu'on peut carrément comparer au général de Gaulle. Et puis parce que c'est aussi un symbole, le patron de l'OTAN a félicité Kalush Orchestra, vous savez, ce groupe ukrainien vainqueur de l'Eurovision hier. C'est tout un symbole, écoutez Jens Stoltenberg.
Je voudrais féliciter l'Ukraine pour sa victoire au concours de l'Eurovision. Et je ne le fais pas de manière légère, car nous avons vu hier l'immense soutien du public dans toute l'Europe et en Australie.
Voilà, évidemment, venant de lui, ces félicitations ne sont pas passées inaperçues. L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette fusillade aux États-Unis. Un suprémaciste blanc de 18 ans a ouvert le feu dans un supermarché dans l'État de New York. Au moins 10 personnes ont été tuées, dont une majorité d'Afro-Américains. On y revient dans le journal de 19h. Il n'était pas le seul, Emmanuel Macron, non, puisque les dignitaires du monde entier se sont précipités aux Émirats émirat arabe uni pour rendre hommage au cheikh Khalifa Ben Zayed, décédé vendredi. Boris Johnson, Kamala Harris, Anthony Blinken, Felipe d'Espagne, le président israélien Isaac Herzog, tous ont donc défilé, condoléances à la pluie et parlé avec Mohamed Ben Zayed, le nouveau chef d'État émirati, puisqu'Emmanuel Macron l'avait déjà rencontré récemment à l'occasion de la signature d'un contrat d'armement. Les deux hommes se sont donc entretenus, Emmanuel Macron exprimant sa détermination à poursuivre et à développer tout ce qu'ils ont entrepris ensemble depuis 5 ans. Les Émirats Arabes Unis sont un partenaire stratégique de la France. L'ampleur de notre coopération, dit l'Élysée, dans des domaines aussi variés que la défense, la culture ou l'éducation. 18h10, vous restez avec nous dans un instant. Le burkini à Grenoble fait débat. Feu vert ou feu rouge dans les piscines municipales. Le vote a lieu demain. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
C'est donc demain qu'aura lieu le vote sur l'autorisation ou non du port du burkini dans les piscines de Grenoble. Un débat très politique avec d'un côté le maire écologiste de Grenoble qui porte cette mesure au nom de la liberté de choix pour les femmes, dit-il, et une opposition déterminée, y compris dans les rangs de la majorité d'Éric Piolle qui refuse le burkini comme symbole de la soumission de la femme. Mais au fond, qu'en pensent les principales données, les principales intéressées, les femmes musulmanes de Grenoble? Ont-elles envie de porter le burkini à la piscine? Est-ce un progrès pour elles ou au contraire une régression de leur droit à disposer de leur corps? Réponse avec ce reportage de notre correspondant dans la région, Jean-Luc Bougeon.
Premier constat, beaucoup de ces femmes sont loin des débats enflammés qui agitent la sphère politique. Pas question pour elles d'en faire un combat de civilisation, même si le sujet est tout de même important à leurs yeux. Par exemple, le burkini permettrait enfin à Olfa d'accompagner ses enfants à la piscine, ce qui n'est pas possible aujourd'hui.
Comme c'est interdit, franchement, il y a des enfants qui ne peuvent pas y aller à la piscine parce que leur maman, elle ne peut pas aller avec eux. Je peux surveiller les enfants dans les vestiaires, en fait, mais pas dans l'eau.
C'est utile, donc.
Oui, c'est une bonne chose.
Sabrina a 17 ans, elle aussi portera le burkini à la piscine s'il est autorisé, au nom de sa liberté de jeune femme.
On est libre, on est en France, et la liberté, quoi. Et le burkini, c'est important dans notre religion. J'ai entendu parler comme quoi c'est l'homme qui lui impose ça, alors que pas du tout, ça sera mon choix à moi.
Reste que beaucoup de femmes musulmanes, surtout celles de 30 ou 40 ans, n'en voient pas l'utilité. C'est un mauvais combat pour Sarah et Chérifa.
Moi, le burkini, je suis contre. Pour les burkinis, je trouve ça vulgaire, en fait. C'est très moulant. Ça fait encore des histoires pour rien, en fait. Je trouve que ça va pas dans notre sens. S'ils ont décidé de mettre le foulard, ils ont rien à faire dans des piscines municipales. Voilà.
Moi, je suis de religion musulmane. On est dans un pays européen. On s'adapte.
Et ces femmes de conclure, on doit respecter les règles en vigueur autour de nous. Et franchement, l'été, on est quand même mieux en maillot de bain. Grenoble, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et à midi, encore sur Europe 1, Éric Piolle a prôné le burkini dans sa ville au nom du principe de laïcité inscrit dans la loi de 1905. Autre mesure sur le territoire national, cette fois le port du masque, terminé totalement dès demain, y compris dans les transports, bus, métro, train, avion. Il restera en revanche de mise dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Charles de Foucault, ce nom vous est peut-être étranger ou pas, vu que la presse en parle depuis plusieurs jours. Il est l'un des 3 bienheureux Français à avoir été canonisé ce dimanche à Rome. L'église accueillait en ce jour 10 nouveaux saints au total. Reportage de notre correspondant à Rome, Antonino Gallofaro.
Aux abords de la place Saint-Pierre, on croise un petit garçon. Il s'appelle Foucault, comme l'homme qui est devenu saint aujourd'hui, sa maman.
Il a été baptisé Foucault parce qu'effectivement, c'est une vie. La vie de Charles de Foucault nous avait particulièrement marqué. On est très content d'être là et qu'il puisse assister à la canonisation de son saint patron de son vivant. C'est une belle expérience spirituelle.
Les pèlerins français aujourd'hui à Rome sont nombreux. La figure de Charles de Foucault en a marqué beaucoup, c'est le cas de Thibault.
À titre personnel, je la connais depuis l'enfance. Et donc c'est un chemin qui nous a menés jusqu'ici. Ça fait très longtemps qu'on attendait cette canonisation. Pour nous, c'est quelqu'un qui représente beaucoup, sur le plan à la fois de la foi et puis du fait d'être français.
3 Français au total sont devenus saints aujourd'hui. Il y a aussi César de Bus et Marie Rivier. Et c'est cette dernière qui a marqué Léna, une petite fille d'une dizaine d'années.
Par exemple, Pierre, à l'église, on nous a présenté une petite fille qui a été miraculeusement soignée par Marie Rivier et elle a été guérie en priant Marie.
Comme Léna, près de 45 000 personnes ont assisté à la messe de canonisation, place Saint-Pierre. Rome, Antonino Gallofaro, Europe 1.
Et on en reparle de cette canonisation, de l'histoire folle de ce dandy aristocrate devenu quasi-ermite avec Mgr Mathieu Rouget qui se trouve justement à Rome tout à l'heure à 19h15. On reste en Italie si j'ose dire, même si c'était le Grand Prix de France en MotoGP, mais c'est bien Enea Bastianini sur Ducati qui a eu raison des Français Quartararo et Zarco, Axel May.
Eh oui, le public à plus de 100 000 personnes après 2 ans marqués par la pandémie a eu beau chanter la Marseillaise. Ce soutien du public n'a pas suffi. Fabio Quartararo, le champion du monde en titre, un premier Français de l'histoire, rappelons-le, à avoir décroché un titre dans la catégorie reine. Fabio Quartararo s'était lancé en quatrième position cet après-midi. Il a fini à la même place sans avoir été en mesure de se battre avec les meilleurs, dont le vainqueur italien. Écoutez la réaction du pilote niçois au micro de nos confrères de Canal+.
Sincèrement, la seule chose que je peux dire, c'est merci au public d'être venu pour le support. Vraiment, c'était incroyable de voir autant de fans, mais sur la performance, j'ai rien à dire. Sincèrement, on ne peut pas dépasser. Il nous manque toujours la même chose, c'est que là, j'ai aucune opportunité de faire un dépassement. Quand on est bloqué derrière et qu'on n'arrive pas à doubler, ça donne un résultat comme celui-là.
Oui, depuis le début de la saison, sa moto Yamaha, pour ne pas la citer, manque de puissance. Et vous avez entendu cette frustration d'El Diablo, comme il est surnommé, Quartararo, qui reste malgré tout leader du championnat. Zarco, l'autre Français, a fini cinquième sur le circuit Manso. Pour le reste, ce fut un Grand Prix de France typique, avec tout ce qui fait le charme de la moto GP. Des chutes quand elles sont sans gravité, des pilotes acrobates, des dépassements. Je rappelle la vitesse de pointe quand même. Plus de 350 km/h sur un deux roues. C'est... Oui, ça fait rêver ou ça peut faire peur.
Ça fait rêver. Moi, ça me fait rêver encore aujourd'hui. Merci, Axel May. Une reine polonaise à Rome, Iga Świątek remporte pour la cinquième fois le Masters de Rome. La jeune de 20 ans, numéro 1 mondial, a battu la Tunisienne Jabeur 6-2, 6-2. On a hâte de l'accueillir à Roland-Garros, tout comme Djoko qui a sorti Tsitsipas 6-0, 7-6 et qui remporte lui aussi ce Masters de Rome. On passe à la météo, Valérie Darmon, et prudence dans l'ouest à cause des orages.
Effectivement, sur les départements placés en vigilance orange, c'est-à-dire toujours les 6 allant de la Manche à la Sarthe en passant par l'Orne, l'Eure, la Seine-Maritime, les orages jusqu'en milieu de soirée s'annoncent donc virulents. Reste aussi en cours de soirée en moins intense des cellules orageuses du sud-ouest au nord, s'accompagnant toujours de brusques rafales de vent de 80 à 100 km/h. Parfois un petit peu plus, de chutes de grêle et le risque orageux qui va s'atténuer en début de nuit. Donc demain matin, le ciel va rester nuageux sur la moitié nord, donnant quelques averses toujours sur la Bretagne, des ondées orageuses du massif central au plateau lorrain. Dans l'après-midi, l'activité se renforce sur l'Alsace et la Lorraine avec des averses et des coups de tonnerre un petit peu plus nombreux. De la pointe bretonne à la frontière nord, le ciel va rester gris avec quelques pluies. De l'Aquitaine au sud-est, les éclaircies plus ou moins larges reviennent. Il va continuer de faire chaud. Les maximales affichent 20 à 25 sur un bon quart nord-ouest, 24 à 29 sur le reste de la France.
Merci Valérie Darmon, vous restez avec nous dans un instant. Tiens, mais où est passée Marine Le Pen ? Philippe Ballard, porte-parole du RN, est avec nous en direct. À tout de suite.